autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver pour nous demander comment nous protéger des moustiques qui se sont si bien adaptés à notre monde 2.0, urbain, globalisé et interconnecté. Où en sont les recherches en écologie, en génétique, en médecine pour limiter leurs effets pathologiques? Car si la plupart des moustiques sont plus gênants que dangereux, certains, on le sait bien, sont vecteurs de maladies, voire d'épidémies, du paludisme à la dengue, en passant par le chikungunya, la fièvre jaune ou le Zika. Ces petits vampires domestiques sont responsables chaque année de près d'un million de décès dans le monde. Faut-il lancer l'alerte aux moustiques? Question ouverte par notre invité, l'entomologiste Frédéric Simard de l'IRD, qui nous avait fait partager en juillet dernier ses pistes de recherche, mais aussi les techniques de prévention les plus efficaces, ici comme ailleurs, puisque les moustiques ne connaissent pas de frontières. Autour de la question pourquoi tant de moustiques et comment éviter de se faire piquer, bienvenue pour réécouter cet entretien préventif. Bonjour Frédéric Simard.
Bonjour.
Merci d'être venu de Montpellier pour être en direct avec nous. Vous êtes directeur de recherche à l'IRD, au sein duquel vous dirigez l'unité MIVEGEC, maladies infectieuses et vecteurs. Vous êtes entomologiste médical, spécialisé dans l'étude des moustiques vecteurs d'agents pathogènes pour l'homme. Vous avez travaillé, Frédéric, pendant 15 ans en Afrique sur le paludisme et les arboviroses. Vous avez d'ailleurs été l'un des premiers à documenter l'arrivée du moustique tigre en Europe. Faut-il lancer l'alerte aux moustiques? C'est la question qui donne son titre à ce petit livre, tout public, que vous publiez avec vos collègues André Yebakima et Laurence Farodière aux éditions CITEP IRD. Pourquoi cette question, Frédéric Simard, se pose ou se repose aujourd'hui avec plus d'urgence encore et cette fois-ci sur toute la planète?
Effectivement, il y a un vrai risque moustique, vous l'avez dit, hein, ça nous transmet des agents pathogènes qui nous provoquent des maladies, la dengue, le paludisme, 750 000, 1 million de morts par an, c'est une estimation basse de la chose, donc ça a un réel impact, et c'est un impact qui augmente d'année en année. Si on a réussi à mettre en place des méthodes de contrôle relativement efficaces contre le paludisme, on se rend compte qu'aujourd'hui, on en atteint les limites et on s'attend à un effet rebond qui devrait arriver dans peu de temps, puisque les moustiques deviennent résistants aux insecticides qu'on utilise pour les combattre. Et puis d'un autre côté, il y a cette nouvelle menace, entre guillemets, due à un autre genre de moustiques, les Aedes, qui vont nous transmettre des virus tels que la dengue, le chikungunya ou le Zika. Et ces moustiques sont en expansion dans le monde. L'Aedes aegypti a commencé, qui est sorti d'Afrique, a commencé sa colonisation de toute la zone intertropicale au moment du commerce triangulaire et de l'esclavage. Maintenant, il a conquis l'ensemble de la zone intertropicale, de laquelle il ne sort pas parce qu'il est assez sensible au froid et à l'hiver en particulier. Et puis son cousin, entre guillemets, l'Aedes albopictus, plus connu sous le nom du moustique tigre, qui lui vient d'Asie et qui se propage à la vitesse de la lumière ou presque, à la vitesse de la mondialisation, on va dire, sur l'ensemble des continents.
Oui, à la vitesse de la mondialisation. Exactement. Parce qu'il s'adapte très très bien et très très vite.
Alors c'est parce qu'il s'est adapté à l'homme qu'il a pu profiter de nos moyens de transport, les utiliser. Il utilise nos avions pour passer d'un continent à l'autre, nos bateaux, il utilise nos trains, nos véhicules pour se répandre à l'intérieur d'un même continent. Il a comme ça colonisé l'Amérique du Nord à partir des années 80, 85, on l'a identifié pour la première fois aux États-Unis. De là, il a colonisé l'Amérique du Sud. Ça a été une tête de pont également, cette colonisation des États-Unis, pour coloniser l'ensemble des autres continents, l'Europe et l'Afrique en particulier.
D'où l'intérêt de tous les conseils pratiques et efficaces que vous nous donnez. On y viendra pour éviter de se faire piquer et de cultiver les moustiques, parce que souvent ce sont nous qui les cultivons. On verra comment faire autrement. Mais d'abord, je vous propose, Frédéric Simard, de commencer autour de la question pourquoi tant de moustiques, par quelques pistes de réflexion forcément piquantes. C'est le mix sous la moustiquaire d'Apolline Verlon-Raison.
Il y a une vingtaine d'années, des pneus usagés sont partis de Malaisie pour les États-Unis via le Japon. À l'intérieur des pneus, des œufs d'Aedes albopictus, le moustique tigre.
Une espèce qui est très dangereuse, qui s'appelle Anopheles arabiensis. Donc c'est un vecteur de maladie, et la maladie est le paludisme.
Les principaux symptômes sont fièvre, maux de tête, frissons et parfois vomissements et diarrhée.
Cette femelle de moustique a besoin de prendre un repas de sang environ tous les 3 à 5 jours.
Le moustique est un tueur en série. Et je voulais savoir comment il fait. Parce que c'est pas lui qui tue, c'est les petits animaux, les parasites, qu'il transporte.
On a balancé du DDT partout. 30, 40 ans après, on a plus de moustiques. Ils sont tous résistants aux insecticides. On a grillé nos molécules.
Là, il y en a un qui a des sortes de moustaches et pas l'autre.
Oui, tout à fait. Alors, les moustaches, c'est ce qu'on appelle des plumes. Et donc, c'est caractérise le mâle. Et la femelle, c'est cette grosse trompe bien solide qui la caractérise.
Comme on dit à la Martinique, être sec avec le moustique, c'est-à-dire réduire au maximum les gîtes larvaires qui sont les lieux de production des moustiques.
Comment traiter le moustique? Vu que le moustique, ce serait difficile de le faire prendre des comprimés ou de l'injecter.
Et c'est le pire ennemi de l'homme. Plus de 2 millions de morts par an.
J'ai vu ces gens très merveilleux qui sont à la frontière du Sénégal, du Mali et de la Guinée, dans la forêt de Kédougou. Et alors ils ont les bras nus et puis ils essayent de capturer les moustiques avant qu'ils piquent.
Le moustique se contente de ce que l'homme refuse. Il est petit, il sait vivre en société et il accepte de mourir vite.
Frédéric Simard, vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre? Je vous ai vu reconnaître la voix de vos collègues, d'Annabelle Fayou, spécialiste du virus du Zika, ou d'Éric Orsenna qui vient de publier « Géopolitique des moustiques ».
Bah effectivement, il y a un peu, c'est un condensé de toutes les questions qu'on se pose, nous, en tant que chercheurs, et puis les gens, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Asie, qu'ils soient en Europe, sur les risques qu'on court, sur le fait que on a l'impression qu'il y a plus de moustiques. Il y en a pas forcément plus en biomasse, on va parler en nombre, mais effectivement, il y en a plus dans nos environnements urbains, desquels ils étaient relativement absents jusqu'à encore récemment.
Oui, parce que sur la quantité de moustiques, la plupart sont nuisibles ou provoquent des nuisances à l'homme, mais lesquels sont véritablement dangereux pour l'homme?
Alors la plupart, on les voit même pas. Parce que les moustiques sont des animaux sauvages qui n'ont pas forcément de rapport avec l'homme. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on dénombre un peu plus de 3500 espèces de moustiques. On les connaît pas tous. On sait très bien qu'on les connaît pas tous, puisqu'il y a des régions entières qui n'ont pas été prospectées. Le cœur des forêts équatoriales en particulier. Et sur ces 3500 et quelques espèces, il y en a une soixantaine, grosso modo, qui peuvent être responsables de transmission d'agents pathogènes à l'homme. Il y en a, disons, environ 200 qui peuvent piquer l'homme, quand l'homme va dans leur environnement, quand vous allez vous balader dans des mangroves, quand vous allez vous balader au cœur de forêts, vous vous faites piqué par des moustiques qui n'ont pas forcément...
Parce que vous êtes là.
Parce que vous êtes là, parce que vous entrez sur leur territoire.
Parce que les moustiques se nourrissent de sang.
Les moustiques ne se nourrissent pas de sang. Les moustiques se nourrissent de sucre. C'est ça qui les fait vivre. Mâles comme femelles ont besoin de sucre. Le sang, c'est uniquement les femelles qui sont hématophages. Hématophages, ça veut dire qui se nourrissent de sang. Et le sang est destiné à la maturation des œufs. La femelle a besoin de protéines, d'acides aminés qu'elle ne va pas trouver dans le nectar des fleurs, qu'elle ne va pas être capable de synthétiser elle-même et qu'elle va trouver dans le sang des vertébrés. Et c'est ça qui permet la maturation des œufs dans son corps avant d'être pondu.
Donc ce sont toujours les femelles,
uniquement les femelles,
qui piquent les humains.
Piquent. Voilà, les mâles ne piquent pas. Leur rôle est essentiellement reproducteur.
Alors parmi ces femelles moustiques, celles qui sont dangereuses pour nous, il y a quoi? Il y a 3-4 catégories de moustiques, les Aedes.
Voilà, il y a les Aedes, comme on l'a dit tout à l'heure, qui transmettent la dengue, le Zika, le chikungunya ou la fièvre jaune, par exemple.
Et qui sont des vecteurs, qui ne font que les véhiculer.
Vecteurs, ça veut dire qu'ils transportent un pathogène d'un homme infecté à un autre homme infecté ou d'une bestiole infectée à l'homme, qui peuvent également faire passer des virus ou des parasites du règne animal à l'homme. Donc ça peut être aussi des vecteurs ponts, des bridge vectors comme on dit
en anglais. Oui, dans tous les sens. Mais ils ne sont que vecteurs, ce ne sont pas eux.
Qui provoquent la maladie. Un moustique non infecté qui va vous piquer ne vous transmettra pas de maladie. Il faut qu'il ait d'abord piqué une personne porteuse de ces virus ou de ces parasites pour pouvoir les retransmettre ensuite, après que ce virus ou que ce parasite se soit développé dans le vecteur. Donc c'est une étape essentielle également du développement du pathogène de passer par ce vecteur.
par le moustique. Et donc on a parlé des Aedes, dont le moustique tigre, de l'anophèle,
voilà,
vecteur du paludisme.
Qui transmet le paludisme. Le culex, qui lui est présent dans toutes nos villes, qui n'est pas forcément responsable, qui n'a pas un rôle énorme en termes de transmission de maladies, même si il peut être impliqué dans certains environnements, dans la transmission de différents virus, le virus West Nile, en l'occurrence, la filaire de Bancroft également, c'est un moustique qui peut transmettre ces choses-là dans des environnements très spécifiques, mais dans nos villes, il transmet pas grand-chose, c'est celui qui va nous déranger la nuit, à buzzer à nos oreilles et qui va nous empêcher de dormir.
Et qui va nous piquer. Donc, aussi par la même occasion. Un de nos auditeurs au Togo nous demande si les moustiques pourraient être vecteurs du VIH-Sida, par exemple.
Alors non, le moustique, comme je vous l'ai dit, c'est une part intégrante du développement du pathogène. Ce sont seulement certains pathogènes qui ont besoin du moustique pour se transmettre et pour se développer. Le VIH se transmet d'homme à homme. Le moustique digère le VIH. S'il ingère du sang d'une personne infectée par le VIH, il va le digérer en même temps que son repas de sang, et puis ça s'arrête là. Le moustique, c'est quelque chose de propre également, il n'a pas du sang, des gouttes qui restent sur la trompe, et il ne peut pas être un vecteur mécanique de VIH-Sida.
Autour de la question pourquoi tant de moustiques et comment mieux les connaître pour mieux s'en protéger, je propose d'écouter Zao, évidemment.
Allons-y.
Sur RFI. Allons-y pour son fameux moustique.
Les grands, ah, tu es un bandit. Tu viens chanter à mon oreille sans avoir peur. Ah, tu es un gêneur. Tu piques ma femme sans payer l'adultère. Ah, tu es un escroc. Tu es romantique, tragique et tu es impudique. Tu chatouilles l'européenne, tu piques l'africaine. Ah, tu es un raciste. Tu trompes la sentinelle, tu vas piquer monsieur le président. Ah, tu es un assassin. Tu vas piquer le roi sans passer par le protocole. Ah, tu es un criminel. Moustique, moustique, ah, tu es un assassin. Tu me donnes le paludisme, la mort et la misère. Il y a beaucoup de cadavres dans les quartiers, il y a toujours des veillées. Qui me fait fendre les lèvres pour que je ne mange plus la chèvre. Moustique, moustique, ah, tu es un salaud. Moustique, moustique, ah, tu es un assassin. Moustique, moustique, oh, tu es un salaud.
Le moustique de Zao, qui contribue aussi à sa manière et avec l'humour en prime à la prévention. Autour de la question pourquoi tant de moustiques et comment s'en protéger, en compagnie de l'entomologiste médical Frédéric Simard de l'IRD, qui a bien apprécié Zao. Tout de suite, une nouvelle question pour vous, soulevée par Caroline Tourbe du mensuel Science et Avenir.
Est-ce que, en fonction des espèces de moustiques, la stratégie de reproduction est la même? Et si c'est pas le cas, est-ce que on doit les connaître? On doit connaître précisément comment ils se reproduisent pour mieux les combattre?
Votre réponse, Frédéric
Simard. Très bonne question. Alors, bien sûr, il y a des choses en commun à tous les moustiques. C'est-à-dire que l'accouplement va se produire juste après l'émergence. Vous savez que les moustiques, le bébé moustique, c'est une larve qui est aquatique. Elle va passer de l'état aquatique à l'état aérien par une métamorphose complète, un peu comme un papillon passe du stade de chenille à papillon. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir au niveau morphologie. Mais l'accouplement va se produire au stade adulte, donc juste après l'émergence. Et ce qu'il y a d'important chez les moustiques, c'est qu'en général, la femelle ne se reproduit qu'une seule fois dans sa vie, juste après l'accouplement. Elle a un organe spécifique dans son abdomen qu'on appelle une spermathèque, où elle va stocker tout le sperme qu'elle reçoit lors de l'accouplement. Et ensuite, elle est autonome pour féconder ses œufs à chaque fois qu'elle va pondre. Et ce qui va déclencher la ponte, c'est une prise de repas de sang. Les œufs vont maturer pendant 24 à 48 heures, et ensuite la femelle les pond. Les œufs passent devant la spermathèque et sont fécondés par le sperme qui est stocké dans la spermathèque.
Ça marche pour toutes les espèces de moustiques.
Alors après, là où ça va se passer, c'est là où ça change. Chez les anopheles, ça va se passer au sein de d'essaims. Les mâles, au crépuscule, forment des essaims assez gros, hein, et quand on a l'habitude, on peut les repérer de manière assez précise. Et c'est une technique qui a été développée notamment par nos collègues de Bobo-Dioulasso Lasso au Burkina Faso, d'observer ces essaims d'anopheles, de les repérer de manière à pouvoir agir dessus. Les Aedes, par exemple, ça va pas se passer en essaim, ça va pas se passer dans des endroits particuliers, mais les mâles vont attendre les femelles autour des hôtes qu'elles vont venir piquer. Donc il y a différents moments auxquels ça se passe, différentes stratégies, mais le mécanisme est grosso modo le même. Et c'est un point important parce que c'est un point faible des moustiques. C'est
L'accouplement,
ce point-là. Si par exemple on remplit la spermathèque de la femelle par du sperme qui est non viable, eh ben on stérilise en quelque sorte la femelle.
Et là,
tous
ça fait
les
des moustiques stériles
qu'elle pondra de toute sa vie n'écloront jamais. Et c'est une stratégie de recherche pour mettre au point de nouvelles méthodes de lutte sur lesquelles on travaille, bien sûr.
À nos auditeurs, nous parlaient de moustiques OGM. C'est ça, les moustiques OGM.
C'est pas tout à fait ça. Il y a plusieurs moyens de stériliser, de rendre non viable le sperme des moustiques. Ça peut être par base chimique, la chémostérilisation. Ça peut être par irradiation. On irradie le mâle et on veut, à une faible dose d'irradiation, de manière à ce qu'on tue uniquement les cellules les plus fragiles, qui sont les cellules du sperme. Donc le mâle est intact, mais ses cellules de sperme sont non viables. Ça peut être par modification génétique. Donc là, on a un moustique OGM, un organisme génétiquement modifié, qui est stérile. Mais le bricolage génétique, changer les gènes du moustique, c'est seulement une stratégie qui peut se baser sur cet aspect d'accouplement, mais c'est pas l'ensemble des stratégies.
Oui, il faut énormément de stratégies vis-à-vis de ces moustiques qui se développent extrêmement vite, qui s'adaptent à tout, qui résistent à tout, et parce qu'en plus aujourd'hui, on sait bien que il faut prendre en compte l'environnement aussi.
Tout à fait. Ils résistent à tout ce qui est trop fort et qui est unilatéral. C'est-à-dire, ils résistent aux insecticides parce que c'est la seule méthode de lutte qu'on a utilisée jusqu'à maintenant pour les tuer. Et si on tape fort uniquement d'un seul côté, forcément on va générer de la résistance.
Et on a déjà tapé beaucoup trop fort, vous disiez, dans le mix, on a utilisé presque toutes nos gâchettes.
Le DDT a été utilisé larga manu contre les moustiques, uniquement le DDT, ce qui fait qu'on n'a pas éliminé les moustiques avec cette molécule-là, mais on a plutôt généré des résistances. Et aujourd'hui, l'ensemble des moustiques qui nous dérangent réellement sont résistants à cette molécule et à toutes les molécules qui sont associées, qui ont le même mode d'action.
Donc il faut des stratégies multiples. Pour ces moustiques, on ne l'a pas dit, qui n'ont pas les mêmes modes de vie. Certains piquent le jour, d'autres piquent la nuit, d'autres le soir.
Effectivement, pas au même endroit. Certains piquent dehors, d'autres piquent dedans. Certains piquent la nuit, certains piquent le jour, comme vous l'avez dit. Chaque espèce a son propre comportement. Donc il faut aussi bien connaître l'espèce pour être efficace dans son contrôle.
J'entends de mon lit, la situation est tragique. J'entends de mon lit comme une musique. Un genre de moustique, un ouistiti de cet acabit. Un genre de bête vole dans la nuit. J'entends quelque chose qui bourdonne comme un moteur qui ronronne à la manière d'un énorme bombardier. Il est là tout près qui résonne, il est là qui fanfaronne. Sans cesse il passe et repasse sous mon nez. Sans bouger je pis, paralysé par la panique. Sans bouger je pis, tapis dans la nuit. C'est le bruit qui pique, Le cri de la bête qui pique, c'est le bruit qui pique, typique aux moustiques. J'entends quelque chose qui bourdonne comme un moteur qui ronronne à la manière d'un énorme bombardier. Il est là tout près qui résonne, il est là qui fanfaronne, sans cesse il passe et repasse sous mon nez. Les yeux tout bouffis à l'affût du moindre trafic, les yeux tout bouffis debout sur le lit. J'épie la musique, le cri de la bête qui pique, j'épie la musique typique aux moustiques. La tactique, ou bien je l'oxy, ou c'est lui qui pique. Je sonne la lali, j'ouvre la lumière électrique. J'en ai ma claque de tourner en bourrique. Ça ne fait pas l'ombre d'un pli. Il est là, c'est bien lui qui me regarde en me faisant des pieds de nez. Il est là tout près du nombril. Il est là, c'est bien lui qui s'en va, qui s'enfuit tout là-bas dans la nuit. J'entends de mon lit, la situation est tragique. J'entends de mon lit comme une musique. Un genre de moustique, un ouistiti de cet acabit. Un genre de bête vole dans la nuit. Paladou des tabidou bidou bidou bap. Paladou des tibou des boudap. Paladou des tabidou bidou bidou bap. Paladou des. Paladou des. Paladou bidou bap.
Richard Gottener sur RFI, autour de la question des moustiques que nous creusons avec notre invité, l'entomologiste Frédéric Simard de l'IRD. Nous nous demandons comment nous protéger de tous ceux qui véhiculent virus et maladies infectieuses émergentes ou réémergentes. Question d'actualité qui résonne désormais sur toute la planète. Vu la capacité d'adaptation des moustiques à notre monde, de plus en plus urbain et interconnecté, le moustique moderne est citadin, voyageur et résistant aux insecticides. C'est un autre entomologiste de l'IRD, Vincent Robert, qui a co-dirigé avec vous, Frédéric Simard, l'ouvrage collectif de référence sur l'entomologie médicale et vétérinaire, qui nous rappelle à quelle vitesse les moustiques et leurs hôtes viraux peuvent s'adapter aux changements globaux et à la libre circulation des biens, des hommes et des marchandises.
La plupart du temps, quand il s'agit de transport de virus, c'est des transports rapides, donc les transports aériens sont plus souvent impliqués. Mais par exemple, pour les transports des œufs, des Aedes albopictus, le fameux moustique tigre qui est un petit peu en train d'envahir l'Europe à l'heure actuelle, eh bien, il a été transporté de continent à continent à travers des transports maritimes dans des containers à l'intérieur de pneus qui étaient usagés et qui, alors qu'ils ont été mis en eau par la pluie, ont libéré les larves plusieurs mois après parce que l'œuf résiste à la défécation. On parle de maladies émergentes dans ces cas-là. Et par exemple, on pense à la fièvre de la vallée du Rift qui est sortie de son sanctuaire africain pour rentrer au Moyen-Orient. On pense au Zika, évidemment, qui a franchi l'océan Atlantique et qui est allé contaminer l'Amérique latine avec les conséquences qui ont été observées il y a quelques trimestres à ce sujet-là. Donc tout ça, c'est effectivement des conséquences de la mondialisation.
Conséquences de la mondialisation. Vous voulez réagir, Frédéric Simard, à cet éclairage de Vincent Robert recueilli par Alice Milot ?
Bah, tout à fait, c'est tout à fait exact. La mondialisation a plusieurs visages. Hein. C'est les marchandises qui circulent et qui sont contaminées par les œufs de moustiques, comme Vincent l'a dit. Et puis les hommes qui circulent. Les voyages sont de moins en moins chers. On va de plus en plus loin. En une journée, on peut faire le tour de la planète en s'arrêtant à droite à gauche. Et là, les hommes vont transporter les virus ou les pathogènes. Et les
parce qu'en fait, ce sont les hommes qui transportent les virus ou les pathogènes qui
amènent les moustiques. À la fois les moustiques et à la fois les pathogènes. Mais ce ne sont pas les moustiques infectés qui vont voler d'Afrique en Europe, par exemple. Les deux, le moustique et le pathogène, se retrouvent en Europe amenés par l'homme.
Amenés par l'homme.
Dans certains cas, en Europe ou ailleurs, hein, au Brésil, ben, ça peut faire des cocktails explosifs.
C'est ce qui s'est passé avec l'émergence de ce virus Zika.
Effectivement.
Et ils se reproduisent aussi beaucoup plus vite que nous, les moustiques. Donc évidemment, ils ont un temps d'avance sur nous et dans la course aux armements contre eux, on est perdant tous les coups.
Ils sont beaucoup plus nombreux, ils se reproduisent beaucoup plus vite, donc ils ont la variabilité nécessaire pour pour que la sélection agisse et pour qu'ils puissent s'adapter à quasi n'importe quel contexte.
On a un témoignage à nos auditeurs sur les réseaux sociaux. Il habite au Gabon, à Libreville, et il dit que dans son quartier, il a l'impression qu'il y a des moustiques qui sont plus gros que ceux habituels, qui ont des taches blanches et qui sont très agressifs et qui le poursuivent dans toute la maison. C'est quoi
ce moustique-là ? Taches blanches et très agressifs, ça c'est le moustique tigre.
Ah, c'est le
fameux. Il est arrivé au Gabon en 2007, avant il n'existait pas là-bas. Il y avait son cousin, Aedes aegypti, qui est peut-être un peu moins agressif et que les gens connaissent mieux, ou sont plus habitués à sa présence. Le moustique tigre, les gens sont pas habitués à sa piqûre. Sa salive qu'il nous injecte en nous piquant va provoquer des réactions allergiques. Et donc, on a peut-être l'impression que ça pique plus fort. Mais ce moustique noir et blanc, très agressif, c'est le moustique tigre, c'est sa signature. Alors, le gros moustique ou le petit moustique, ça, il faut savoir que...
C'est pire, un gros ou un petit ? Un gros qu'un petit, ou c'est pas pire ?
C'est pas pire, ni en termes de nuisance, ni en termes de risque de transmission de maladie. Un petit moustique va peut-être avoir tendance à piquer plus souvent, va digérer plus vite, va piquer plus souvent, donc possiblement transmettre plus qu'un gros moustique. C'est pas parce que le moustique est gros qu'on doit en avoir peur et qu'il fait plus mal ou qu'il est plus dangereux.
Est-ce qu'il y a des peaux plus sensibles que d'autres aux piqûres de moustiques ?
C'est pas uniquement une question de peau. C'est une question de génétique. On n'est pas tous pareils. Donc, on peut attirer plus ou moins les moustiques. Ça explique une petite partie de la chose. On a des bactéries sur la peau qui synthétisent des composés aromatiques, des composés volatiles, et c'est ça qui va attirer les moustiques. Donc, en fonction de votre état physiologique, si vous êtes malade, que vous avez de la température, par exemple, votre corps est plus chaud, une femme, quand elle est enceinte, sa température corporelle est plus élevée, les bactéries à la surface de la peau vont être plus actives, relarguer plus de composés qui vont attirer plus de moustiques. C'est la même chose quand on a bu de l'alcool. Le métabolisme est beaucoup plus actif. Les bactéries également à la surface de la peau, donc en fonction des heures, des jours
vous
et de la nuit.
Vous n'avez pas tort quand vous disiez que les moustiques aimaient bien le vin rouge.
Effectivement. Et ça, on a pu le démontrer scientifiquement également. Donc tout ça, et également, donc ça c'est ce qui va attirer les moustiques, mais il y a également le ressenti des gens qui n'est pas le même. Certaines personnes vont réagir très fortement à la piqûre de moustiques, d'autres beaucoup moins. Et donc vous pouvez avoir à nuisance égale, à taux de piqûre égal, vous pouvez avoir des gens qui se plaignent et des gens qui se plaignent pas du tout.
Mais
des
c'est
gens
subjectif
qui ont l'impression.
Aussi.
Alors tout ça fait un tout. Hein. Donc la génétique d'une part, l'état physiologique d'autre part, et puis le ressenti également.
Mais les moustiques, nous demande un autre de nos auditeurs, ne sont pas que négatifs, ils sont sûrement aussi utiles s'ils
sont très utiles. À l'état larvaire aquatique, ils vont participer au recyclage de l'azote organique en azote minéral pour que ça puisse être réinvesti, réutilisé par les plantes qui vont pousser. Donc c'est l'étape initiale, ils vont en quelque sorte décomposer la matière organique dans les flaques d'eau pour la rendre disponible aux bactéries qui vont ensuite transformer l'azote. Si cette étape initiale n'a pas lieu, on a eutrophisation des milieux, on a pourriture des flaques d'eau et on n'a plus de recirculation de l'azote. Donc ça, c'est quelque chose d'énorme. La seconde chose, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est que les moustiques, à l'état adulte, eh ben, ils se nourrissent de sucre, ils vont butiner les fleurs et ils participent très probablement à la pollinisation. C'est quelque chose qui est pas encore étudié et qui mériterait de l'aide, je pense. Et puis la troisième chose, c'est que c'est également une biomasse énorme. On a dit qu'ils étaient très nombreux. En termes de kilos de moustiques dans l'environnement, c'est beaucoup. Et c'est ça que les oiseaux et autres insecticides vont se nourrir là-dessus.
Donc ne pas chercher à éradiquer n'importe comment.
On ne cherche pas à éradiquer les moustiques. Ce qu'on cherche à éradiquer, ce sont les maladies.
Et pour ça, vous vous inspirez aussi beaucoup des recherches et des travaux de ceux qui ont l'expérience, c'est-à-dire de tous les chercheurs dans la ceinture tropicale, dans la Caraïbe, en Afrique. Eux ils ont de ces moustiques qui arrivent dans
c'est
les zones plus tempérées.
C'est pour ça qu'on y est présent également beaucoup à l'IRD. Et avec nos collègues, aussi bien en Amérique du Sud qu'en Asie et beaucoup en Afrique et dans la Caraïbe, des gens qui sont exposés à ce risque depuis très longtemps, qui ont appris à le maîtriser en quelque sorte. Et donc il y a beaucoup de choses dont on peut s'inspirer de ces communautés-là, et même si, encore une fois, c'est pas la panacée, puisqu'on a encore ces maladies et ces moustiques.
Oui, mais on n'arrive pas à s'en débarrasser, mais on peut réfléchir à des stratégies. Hein.
Exactement. Et puis s'en inspirer pour les adapter à nos environnements, à nous en Europe maintenant, où le risque est de nouveau présent.
Oui, parce qu'on avait cru qu'il était éradiqué. Or, il est de nouveau là, autour de la question pourquoi tant de moustiques et comment s'en protéger. Je propose de retrouver justement en Martinique votre collègue, André Yebakima. Il est co-auteur de ce petit livre « Alerte aux moustiques ». Il a créé et il dirige le Centre de démoustication et de recherche entomologique lutte antivectorielle de Martinique. André Yebakima est aussi à l'origine de l'indice qui porte son nom, l'indice Yebakima, hein, c'est ça. Devenu un outil incontournable dans la lutte contre le moustique tigre. On l'écoute, je l'ai joint au téléphone. À Rivière-Salée, en Martinique.
Au niveau de la Martinique, nous sommes confrontés à deux types de moustiques, dont singulièrement l'Aedes aegypti, qui transmet beaucoup de maladies, fièvre jaune, dengue, zika, chikungunya. Et nous sommes avant tout une structure opérationnelle. Nous avions en tout cas besoin de disposer d'un outil d'aide à la décision. On a besoin de prendre des dispositions rapides en termes de réponse à une situation. Et c'est ce qui nous a conduit, donc, après 5-6 années d'observation sur le terrain, de mettre au point, d'améliorer plutôt donc, un indice existant. Donc voilà, et bien que c'est un collègue, effectivement, donc appelé l'indice Yebakima. Donc cet indice, c'est vrai que par rapport aux indices entomologiques existants, a l'avantage de prendre en compte ce que nous appelons les gîtes larvaires, c'est-à-dire les lieux ou les sites où vont se développer donc, notamment donc, les moustiques et simplement l'Aedes aegypti, donc que ce soit les pois à fleurs, les récipients des réserves d'eau, les vieux pneus, ainsi de suite. Donc voilà, donc, cet indice tient compte en tout cas de la typologie des lieux de reproduction de l'Aedes aegypti.
Et vous avez l'impression justement que la lutte progresse, que mieux on les connaît, mieux on peut lutter contre, avec justement vos 35 ans de recul en Martinique.
Nous sommes optimistes. La lutte progresse, comme elle s'adresse en tout cas au changement de comportement de la population. Donc c'est un long processus. Donc c'est quoi qu'il faut absolument s'inscrire dans la durée. C'est valable pour la Martinique, mais je crois que c'est valable en tout cas pour toutes les régions du monde, y compris les régions tempérées, y compris en tout cas aujourd'hui la France hexagonale, la France métropolitaine, avec le moustique malheureusement qui a fait son apparition. Donc je crois que dans cette lutte, il faut absolument s'inscrire dans la durée, s'inscrire dans le long terme et surtout développer ce que nous appelons une approche communautaire, c'est-à-dire le fait en tout cas d'impliquer les municipalités, d'impliquer l'éducation nationale, les écoles, les associations de quartier dans cette approche, en tout cas le meilleur moyen pour obtenir des résultats durables.
Est-ce que vous auriez pour terminer une question à poser à Frédéric Simard, avec qui vous avez collaboré et qui est notre invité aujourd'hui ?
Que pourrons-nous faire pour développer de même comme activité de recherche sur l'Aedes aegypti et sur le moustique tigre qu'on appelle donc l'Aedes albopictus face à l'émergence de la fièvre jaune en Afrique noire singulièrement. Et s'il y a l'émergence de la fièvre jaune en Afrique noire, mais il y a aussi risque d'expansion dans la Caraïbe et peut-être même dans les pays tempérés. Donc à Frédéric, que pourrons-nous faire aujourd'hui encore comme recherche dans ce domaine?
Votre réponse, Frédéric Simard, sur les antennes de RFI.
La recherche, que ça soit pour la fièvre jaune ou pour la dengue, c'est un peu la même chose. C'est bien comprendre comment se passent ces cycles, bien identifier les conditions d'émergence et de transmission de ces virus pour être capable d'avoir un impact avec une approche variée. Comme on disait tout à l'heure, ce qu'a dit André est tout à fait exact. C'est quelque chose qui doit s'inscrire dans la durée. Il faut plus qu'on ait en tête qu'on va pouvoir mettre un point final à la pullulation des moustiques ou au risque de maladies transmises par les moustiques, comme on l'a cru avec le DDT. On s'est dit ça y est, on a fini, on a trouvé une molécule qui marche. C'est un risque environnemental qu'on a créé nous. À force de nous multiplier, de créer de nouveaux environnements, nos villes, nos environnements urbains.
Oui, ils plaisent beaucoup aux moustiques, ça favorise les moustiques.
Ils se sont adaptés, c'est ceux-là qui nous dérangent. Effectivement, c'est pas les moustiques au fin fond de la forêt équatoriale
qui se sont adaptés à nous et qui...
Voilà. Et donc, bien qu'on ait en tête que c'est quelque chose qui va durer, qui s'inscrit sur le long terme.
Voilà pourquoi vous donnez, alors, vous avez des pistes de recherche particulières, on l'a vu, qui combinent beaucoup d'éléments, qui prennent en compte l'environnement. Et vous nous donnez aussi beaucoup de conseils pratiques. André Yebakima l'a pas dit là, mais par exemple,
on s'inspire de l'approche communautaire,
assécher, mettre le moustique à sec. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en Martinique aussi.
Voilà. Soyez sec avec les moustiques.
C'était
le slogan de l'EID, l'entente interdépartementale de démoustication méditerranée, hein, qui est présente à Montpellier. Ceux qui ont démoustiqué le littoral méditerranéen et qui ont permis la construction de la Grande Motte et de tous ces campings sur le littoral.
Oui, qui étaient infestés de moustiques avant. Alors, comment on fait pour être sec avec le moustique? Il ne faut pas lui laisser de l'eau, c'est ça?
Alors, pourquoi c'est important? Déjà, c'est parce que si vous faites piquer chez vous, c'est que vous élevez le moustique chez vous ou que votre voisin l'élève. C'est pas parce que le moustique se répand à l'échelle du globe qui vole lui-même d'un continent à l'autre, on l'a déjà bien dit. C'est un moustique très sédentaire. À partir du moment où il a un petit peu d'eau pour déposer ses œufs ou ses larves vont se reproduire et une personne à piquer, il a besoin de rien d'autre. Et tout ça, il l'a chez nous, chez tout le monde. Et tout le monde peut avoir un impact. Tout le monde peut essayer de limiter la pullulation des moustiques chez lui. Et s'il n'en a pas encore, d'éviter d'offrir aux moustiques le gîte et le couvert.
Oui, c'est ça, parce que c'est nous qui offrons le gîte et le couvert et la crèche pour ces larves dans nos
dans
les succulents de pots de fleurs,
dans nos jardins, sur nos balcons, et donc d'être au courant de ça et de savoir éliminer ces gîtes ou éviter de les laisser productifs, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, et c'est là où on peut avoir un réel impact. Vous mettez des répulsifs ou des insecticides pour tuer les adultes, si vous ne coupez pas la source de production de ces moustiques-là, bah vous pourrez lutter ad vitam aeternam avec du répulsif si vous avez toujours des moustiques qui sortent de vos coupelles de pots de fleurs, par exemple.
Donc, bon conseil, mettre le moustique à sec, ça marche pour tous les moustiques, on n'a pas parlé du plus.
Ça marche pour le moustique tigre.
Ça marche pour le moustique tigre.
Puisque les autres vont se développer dans d'autres types de gîtes larvaires. Les culex, par exemple, vont se développer dans les égouts, dans des latrines. C'est pas la même chose que ce qu'on a chez nous. Les anopheles vont se développer dans des flaques d'eau de pluie en Afrique.
Et justement, pour les anopheles, ce sont quoi peut-être les plus tueurs de nos moustiques?
Ce sont indéniablement les plus gros tueurs.
Avec le paludisme.
Avec le paludisme, bien entendu.
Alors, autour de la question du paludisme et des moustiques vecteurs du paludisme, je vous propose d'écouter en musique cette fois les conseils de prévention de la chanteuse congolaise Ava Diez sur RFI.
Attention, il y a des moustiques. Avant de te coucher, faut pas oublier de placer moustiquaire imprégné. Ferme bien les fenêtres, n'oublie pas les portes, et il faut balayer ton quartier pour chasser le paludisme. Le médicament du port, c'est la prévention. Quand il y a pas d'argent, mieux vaut pas tomber malade. Le médicament du pauvre, c'est la prévention. Quand il n'y a pas d'argent, mieux vaut pas tomber malade. Et il y a des gens qui en meurent, alors que le palud se guérit. Dès que tu as de la fièvre, va consulter le médecin. Le palud est silencieux, mais faut pas le sous-estimer. Il nous tue en silence, nous devons l'éradiquer. Mais le médicament du pauvre, c'est la prévention. Quand il n'y a pas d'argent, mieux vaut pas tomber malade. Et le médicament du pauvre, c'est de ne pas tomber malade. Quand il n'y a pas d'argent, mieux vaut pas tomber malade.
Malaria.
Éradiquer
pour une Afrique sans maladie. Malaria,
paludisme. Supprimer
pour une Afrique sans maladie.
Morceau préventif contre le paludisme et la maladie. Excellent, Frédéric Simard. Signé Avadiaz, donc Avadiaz sur RFI. Ces conseils sont assez justes, hein, quand même, fermer la
fenêtre. Oui, tout à fait.
Et
puis le refrain est très pertinent, la prévention.
La prévention, c'est le médicament,
du pauvre. Et puis c'est le médicament universel, surtout. Puisque quand vous parlez de médicaments, c'est pour les malades. Si vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas traité. Et ça, c'est un problème. Parce que la maladie, c'est le sommet de l'iceberg du pathogène. Si on prend par exemple Zika, vous avez 80% des gens qui sont asymptomatiques, ils font pas un seul symptôme. Donc vous avez toute cette foule de virus qui se transmet sous les radars,
sans qu'on le voit.
Et on le voit pas. Et on ne voit que les malades qu'on peut éventuellement traiter. Pour Zika, dengue, chikungunya, on n'a pas de traitement. Ni fièvre jaune, on n'a pas de traitement. La fièvre jaune, on a un bon vaccin qui marche. Contre le palu, c'est l'inverse. On n'a pas de vaccin, mais on a des traitements qui marchent.
Justement...
Mais ces traitements sont chers et ne sont pas à la disposition des gens qui en ont le plus besoin.
Bien sûr. Et justement, à nos auditeurs à Dakar, nous demandent pourquoi toujours pas de vaccin contre le paludisme.
Parce que le paludisme, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est un as du camouflage. Le paludisme, il se planque dans nos cellules, il se cache dans nos globules rouges et on n'arrive pas, il change de veste en permanence.
Donc on n'arrive pas à coincer.
Les vaccins ciblent les protéines de l'enveloppe du virus qui changent énormément. C'est la stratégie qu'a le parasite du paludisme, le plasmodium, pour échapper à notre immunité d'abord. Et à nos médicaments qui sont juste des ersatz de l'immunité.
Et donc, lutte compliquée, hein, difficile hein, contre le paludisme.
Et une des pistes de recherche serait éventuellement de s'attaquer au plasmodium, pas quand il est chez l'homme, mais quand il est chez le moustique, où là, la réponse immunitaire du moustique est beaucoup plus rudimentaire que la nôtre, et le parasite est beaucoup moins polymorphe, beaucoup moins camouflé quand il est chez le moustique, et serait peut-être plus contrôlable à ce stade-là.
Je pense que cette approche totalement révolutionnaire que nous avions découvert avec Serge Herbanga, hein, voilà, que vous connaissez. Il travaille à l'Institut de Recherche en Sciences de la Santé de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso et il tente de soigner justement les moustiques pour soigner les hommes. Comme il le dit, c'est quand même compliqué de faire avaler un comprimé à un moustique. Mais
lui qu'on a entendu tout à l'heure déjà.
Voilà, et là on va le réécouter. Donc Serge Herbanga qui était récemment notre invité parler de cette approche très originale.
Dans l'approche de la lutte contre le paludisme, on a souvent vu l'aspect du moustique qui transmet le parasite à l'homme. Mais on n'a pas vu l'autre aspect où c'est l'homme qui aussi transmet au moustique. Et nous avons voulu, en partenariat avec d'autres chercheurs, aborder la situation, la question autrement. Comment faire pour traiter le moustique? Et en traitant le moustique, indirectement, traiter l'homme. Et dans ce sens, nous avons voulu utiliser les savoirs traditionnels, les plantes médicinales, et rechercher des molécules qui sont capables de bloquer le développement du parasite chez le moustique. Et dans ce sens, nous avons pu sélectionner un certain nombre de plantes qui ont pu donner des résultats encourageants.
Encourageant et radicalement original, cette, vous voulez réagir à cette piste donc de Serge Herbanga, c'est à la fois soigner les moustiques et à la fois se servir des savoirs traditionnels, des tradipraticiens, des tradibotanistes.
Exactement, et ça c'est la base de toute bonne recherche. Et cette stratégie qu'on appelle le vaccin anti-transmission ou le vaccin altruiste, en gros je vais vous vacciner vous, pas pour vous protéger vous, mais pour protéger les autres.
La communauté.
Donc ça, c'est un peu difficile à faire comprendre aux gens, et on a déjà des problèmes d'acceptabilité des vaccins quand c'est pour soigner la personne avec une efficacité maximale, comme c'est le cas pour la fièvre jaune. Donc vous voyez qu'il y a des, c'est une idée de recherche qui est quand même assez difficile à traduire en méthode de lutte exactement.
Oui, mais parce qu'il faut à la fois faire comprendre qu'on soigne le moustique et qu'en plus on va protéger les hommes pour protéger les autres. On va pas soigner les malades, mais protéger la communauté.
Exactement. Vous, ça vous empêchera d'être vacciné, ça vous empêchera pas d'attraper la maladie et de faire votre palu, ça vous empêchera de le retransmettre
au moustique pour qu'il le retransmette à quelqu'un d'autre.
Voilà, ça c'est une approche, ça peut être combiné, alors toute seule ça marchera pas encore une fois, mais en combinaison avec un autre vaccin ou avec un traitement, ça peut effectivement être très très prometteur. Et vacciner entre guillemets le moustique, c'est aussi un des débouchés qu'on peut espérer des moustiques transgéniques.
Ah, qu'ils soient vaccinés.
Une sorte de thérapie génique du moustique, insérer un gène dans son génome qui
l'empêche de transmettre nos agents infectieux d'un humain à l'autre.
Voilà, exactement, exactement.
Ce sont surtout ces pistes que vous travaillez actuellement.
Alors,
Frédéric
pas
Simard,
nous directement au laboratoire sur l'aspect génétique, hein, puisque dans les zones francophones, l'aspect OGM est très très mal perçu encore. Avec tort ou avec raison, c'est pas la question. C'est que au niveau des populations, ben il y a du travail à faire. Il y a des doutes qui persistent et les gens ont raison de douter.
Il faut se poser les questions avant sur l'impact,
de leur amener les arguments pour dire le risque zéro n'existe pas. Ça c'est clair et aucun chercheur ne prendra le risque de vous dire que le risque zéro n'existe pas. Il y a toujours un intervalle de confiance sur des estimations de risque. À nous de savoir si le jeu en vaut la chandelle et si ce qu'on sauve permet tient dans la balance par rapport à ce qu'on risque de perdre éventuellement. Donc au niveau génétique, on se lance pas directement là-dessus pour deux raisons, hein. Déjà pour cette raison-là et pour également la raison que c'est déjà pas mal développé et pas mal financé par dans les labos anglais ou américains. Et comme on disait tout à l'heure, il faut surtout pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
Il faut
et
diversifier
continuer
la recherche.
À développer, voilà, donner aux décideurs et aux opérateurs de lutte le moyen de choisir dans un panel de méthodes lesquelles sont les plus acceptables par la population, lesquelles sont la plus adaptées au contexte dans lequel on veut lutter et lesquelles sont les plus adaptées à l'espèce qu'on a dans le collimateur. André Yebakima parlait tout à l'heure d'Égypte. Certaines îles de la Caraïbe sont encore un des rares endroits où on ne trouve pas le moustique tigre. Il n'est pas encore arrivé là-bas. Il est à Cuba, mais il n'est pas en Guadeloupe ni à la Martinique. Peut-être il y arrivera bientôt, probablement, mais pas pour l'instant.
Donc
voilà,
savoir,
les contextes sont très différents. En France, dans le sud, on a le moustique tigre, mais on n'a pas l'Aedes aegypti. Donc voilà, c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. Recherche passionnante et en plus qui, du coup, j'imagine, va vous donner, vous donner envie de transmettre et qui est utile là pour le coup.
Et très diversifié. Très diversifié également par les thématiques sur lesquelles on doit travailler, par les espèces auxquelles on va s'intéresser, par les maladies sur lesquelles on travaille qui provoquent pas les mêmes symptômes, qui n'ont pas le même impact au niveau économique non plus et qui fait bouger également.
Rendez-vous demain avec Apolline Vallon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses pour sortir des fantasmes et briser pas mal d'idées reçues sur les migrations. Nous aurons la chance de recevoir François Héran, philosophe, anthropologue et démographe, qui vient d'être nommé titulaire de la nouvelle chaire Migration et Société au Collège de France et de créer le premier institut interdisciplinaire sur les migrations pour remettre un peu de sens critique et prendre un peu de recul autour de la question comment prendre en compte la diversité des phénomènes migratoires. À suivre demain, si vous le voulez bien, sur RFI. Merci de votre curiosité, surtout gardez l'esprit libre et ouvert. À l'écoute de la Radio Mondiale, prochain journal dans une minute.